Le journal Anthony Montandon, bonsoir.
Bonsoir, il est désormais possible de chausser ses lattes dans la région. Des pistes de ski ont ouvert aujourd'hui pour la première fois de la saison du côté des Bugnonnais-Savanières. Mais cette précocité reste une exception sous nos latitudes. Et si le ski ne vous dit rien, pourquoi ne pas vous essayer au tir à l'arc? Une offre unique en Suisse démarre ce week-end et pour un mois du côté de Moutier. Elle est mise sur pied par le club Arc et Forêt de Tavannes. Les détails dans quelques instants. La loi sur les épidémies fait peau neuve. Alain Berset a présenté un texte révisé aujourd'hui. Le texte justement reprend quelques éléments de la lutte contre le coronavirus, mais le ministre de la Santé l'assure, ce n'est pas une loi Covid bis. Et du côté de la météo, les prévisions ont de quoi justement réjouir les amateurs de ski. Demain, on s'attend à se réveiller sous la neige. Météo News indique que des flocons devraient tomber durant la nuit jusqu'en plaine. Ce temps pourrait même nous accompagner durant toute la journée. Côté température, il fera au maximum 4 degrés. Les skieurs ont le sourire. La station des Bugnonnais-Savanières est la première à donner le coup d'envoi de cette saison d'hiver. Elle a ouvert deux de ses installations cet après-midi à 13h, mais ce n'est pas le cas pour les autres domaines skiables. Tour d'horizon des préparatifs d'ouverture des stations de la région avec Céline Reduit.
Le Fornel, côté neuchâtelois, et le Petit Marmet, côté bernois, ont accueilli leurs premiers skieurs ce mercredi après-midi sous un soleil radieux. De quoi laisser présager une belle saison d'hiver. Mais si la neige est bel et bien tombée ces derniers jours, les conditions restent fragiles et cette ouverture peut paraître précoce. Pour Séverine Perret, membre du conseil d'administration des Bugnonnais-Savanières, l'état des pistes est acceptable et le manteau neigeux suffisant. Elle nous explique pourquoi la station préfère prendre le risque d'ouvrir ses portes aujourd'hui, quitte à devoir les refermer demain.
Chaque jour ou chaque demi-jour qui peut être proposé doit se voir comme une opportunité et non un risque. On voit que les hivers sont très irréguliers, là on est obligé de se rendre à cette évidence, donc on ne va pas vers une assurance d'avoir un bel hiver si on attend quelques jours de plus, ça c'est un premier élément. Et puis quand on est comme ça dans des belles journées de fin novembre et qu'on a cette opportunité d'offrir des pistes, alors certes ce ne sont que les petites installations aujourd'hui, mais ce sont quelques belles pistes de bonne qualité, nous sommes heureux de pouvoir les offrir et cette logique de rentabilité n'entre pas en compte à ce stade.
Si la station des Bugnonnais-Savanières préfère profiter de chaque fenêtre météo favorable et puis s'adapter à la situation au jour le jour, les domaines des Prés d'Orvin et de Tramelan sont encore à l'arrêt. Marc-André Léchaud, président des installations orvinoises, estime que le manteau neigeux est encore insuffisant. Autre contrainte, le dialogue avec les agriculteurs exploitant des terrains est parfois houleux puisqu'ils voient la terre se dénaturer et leur travail augmenter au printemps si les ratraques dament les pistes trop tôt. Si le domaine est quasiment prêt à brancher la prise, c'est ce vendredi qu'ils décideront si une ouverture des installations, télébob et babylift en priorité, est pertinente à partir du week-end. Du côté de Tramelan, Frédéric Laubert, responsable communication des installations, précise que les conditions sont insuffisantes pour garantir de la neige sur toute la longueur du téléski qui s'étend sur presque 1 km. Même si la station espère ouvrir avant Noël, elle ne fait pour l'instant aucune prévision.
Les téléskis qui entament la saison d'hiver à leur rythme, c'était un sujet de Céline Reduit. Et ces ouvertures annoncent aussi le début d'une nouvelle saison pour les transports publics hivernaux. Dès à présent, il est possible d'emprunter des bus pour se rendre au Bugnonnais-Savanières ou au Pré d'Orvin. Annonce faite aujourd'hui par le Parc Chasseral. Le détail sur notre site internet. Le Forum de l'Arc à Moutier s'est transformé en parcours géant de tir à l'arc. Dès ce week-end et en vue d'un concours, l'offre sera ouverte au public jusqu'à la fin du mois. 28 cibles d'animaux grandeur nature en mousse sont réparties dans les 2000 mètres carrés du lieu. Le projet a vu le jour grâce au club de tir à l'arc de Tavannes. Et l'événement est une première en Suisse. Le décor, qui rappelle un peu un musée d'histoire naturelle, a reçu un soin particulier. Les détails qui ont leur importance pour Jean-René Wolfsberger, vice-président du club de tir à l'arc Arc et Forêt Tavannes.
Oui, c'est important parce qu'il existe des marques de cibles que franchement, pour ce qu'on y fait, nous tirer dessus, ça suffirait. Mais en plus, elles ne sont pas belles, elles ne représentent pas vraiment l'animal. Puis ça ne nous plaît pas trop. Ça, on préfère avoir des belles bêtes pour voir. C'est mieux, quoi, ça, plus, c'est plus réel.
Ouais. Là, on parle de tir en 3D. Qu'est-ce que ça apporte par rapport à des cibles en deux dimensions?
ça ressemble beaucoup plus à du vrai tir. Hein. Donc, en deux dimensions, c'est une image. C'est une image et vous avez un carré. Le but, c'est d'essayer d'arriver dans ce carré. Une fois qu'ils ont supprimé ça, à la surprise de tout le monde, on s'est dit les points vont chuter. Et non, les points, ils ont augmenté parce que notre regard doit se mettre à l'intérieur de la bête. On doit voir l'intérieur de la bête.
Qu'est-ce que vous voulez dire par l'intérieur de la bête ?
La zone qu'on devrait atteindre avec nos flèches pour obtenir le plus de points. C'est la zone tuée en réel de l'animal. C'est toujours un peu derrière la patte avant, plutôt contre le bas, les poumons, etc. C'est des zones qui donnent des points. Et notre regard, nous, comme on tire sans viseur, on doit trouver un point où on a envie de mettre notre flèche dedans.
Des propos recueillis par Josette Sédoux. Dès ce week-end, un concours réunira les meilleurs archers de Suisse. L'événement est ouvert au public et aux familles jusqu'à la fin du mois. Le parcours restera disponible pendant un mois. Des séances d'initiation au tir à l'arc sont notamment prévues sur demande. Le verdict est tombé. L'homme accusé d'avoir assassiné sa femme dans un centre pour requérants d'asile à Buren an der Aare est reconnu coupable. Le tribunal Jura-Bernois-Seeland l'a condamné aujourd'hui. Les détails avec Séverine Boé.
L'homme a agi par jalousie, c'est ce que précise le tribunal. Pour rappel, ce ressortissant afghan a poignardé sa femme afghane également à 165 reprises en avril 2022, et ce, en présence de leurs 5 enfants. Pour la présidente du tribunal, le mode opératoire est d'une lâcheté incroyable, d'une bassesse sans nom. Marguerite Ndiaye indique que le repentir était inexistant. La cour a rappelé que le prévenu avait donné plusieurs versions farfelues des événements, mais pour les 5 juges, il est seul responsable puisqu'il n'y a que son ADN qui a été retrouvé sur l'arme du crime. Les déclarations des enfants, en revanche, étaient-elles crédibles ? L'accusé écope au final de 20 ans de prison. Il sera ensuite expulsé du territoire suisse pour une durée d'au moins 15 ans. L'homme devra aussi verser 250 000 francs de dommages-intérêts, soit 50 000 francs pour chacun de ses enfants.
Améliorer la fluidité du trafic sur la 16 et réduire les bouchons durant les travaux d'assainissement de la route, c'est ce que demandait une motion d'Étienne Klopfenstein, l'élu UDC de Corgémont, proposé dans son texte de supprimer la priorité au rond-point du Taubenlohr aux véhicules qui viennent depuis Bienne et qui redescendent en direction des champs de Bougeant. Pour Étienne Klopfenstein, même si ces véhicules sont peu nombreux, ils ont la priorité et font donc fortement ralentir les véhicules venant du Jura-Bernois. Les députés du Grand Conseil ont accepté cette motion par 131 oui, 0 non et 18 abstentions. Toutefois, la situation ne devrait pas changer tout de suite. Étienne Klopfenstein.
Maintenant, ce qu'il faudra faire, je vais prendre contact avec les personnes qui travaillent chez M. Neuhaus pour que quelque chose se fasse. Parce que même si la motion a été acceptée, dans sa réponse, je dirais qu'il n'y a pas énormément de choses qui risquent d'être faites. Donc moi, je vais prendre contact pour essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire pour que le canton réagisse auprès de la Confédération, de l'OFRU, et qu'eux fassent quelque chose, parce que c'est une route nationale et c'est l'OFRU qui est responsable de cette route-là.
Sachant que le Conseil exécutif n'a que peu d'influence sur ce dossier, est-ce que ce n'était pas déjà un peu perdu d'avance ?
Non, je ne pense pas. Peu d'influence, oui, ça c'est la réponse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence. Et il faut mettre en œuvre tout ce qui est possible d'être fait, même si c'est peu de choses. Mais si on arrive peut-être avec des petits moyens, d'ailleurs c'est des petits moyens que je demandais, hein, c'est de réglementer avec une signalisation au rond-point qui se trouve au Taubenlohr. C'est ça qui était demandé et je pense qu'avec cette mesure-là, on pourrait faire quelque chose. Maintenant, à voir si une mesure est possible et qu'est-ce qui peut être fait.
A noter que dans sa réponse, le Conseil exécutif a encore précisé que l'idée de supprimer la règle de priorité et de la signalisation correspondante au niveau du rond-point des gorges du Taubenlohr a également été envisagée par l'OFRU, mais a été abandonnée pour des raisons de sécurité routière. L'Office fédéral des routes précise aussi que pour lui, le giratoire permet au contraire de fluidifier le trafic. Le projet d'infrastructure d'accueil des touristes à l'étang de la Gruyère est encore loin de se concrétiser. Le député jurassien Vincent Vermeil a demandé dans une question écrite au gouvernement quelles démarches ont été entreprises depuis la sélection du lauréat d'un concours d'idées en juin 2021. Dans sa réponse, l'exécutif cantonal ne donne pas d'échéance claire concernant la suite du projet. Nicolas Meusy.
Peu de visibilité puisque la réalisation d'une infrastructure d'accueil sur le secteur de la Teure dépend de plusieurs facteurs, notamment la possible construction d'un centre d'interprétation des Franches-Montagnes à Seignelégier. Si l'idée portée par l'association d'identité Franches-Montagnes aboutit, le projet à la Teure pourrait passer à la trappe pour éviter toute redondance. Et même sans cela, l'État doit encore élaborer un plan spécial, trouver un porteur clair pour son projet, projet qui reste à monter et à financer. Ces démarches prendront encore du temps, écrit le gouvernement, sans donner de date concernant l'aboutissement de ces différentes étapes. Jusqu'à présent, le gouvernement apparaît au plus pressé, à savoir concilier protection de l'environnement à l'étang de la Gruère et pression touristique de cet écrin naturel visité par 150 000 personnes chaque année.
Le Conseil fédéral se prépare en vue d'une éventuelle pénurie d'électricité cet hiver. Il a approuvé ce mercredi des mesures visant l'exploitation de centrales de réserve, notamment celles de Corneau et de groupes électrogènes de secours, ainsi que l'augmentation temporaire de la tension sur la ligne entre le canton de Berne et le Valais. Et la Suisse et le Conseil fédéral se vantent d'avoir plutôt bien géré la crise du Covid, mais des améliorations sont possibles. Juste avant de s'en aller, le ministre de la Santé, Alain Berset, a revu la loi sur les épidémies. Il l'a présentée ce mercredi à Berne. Le texte adapté reprend les grands principes de la lutte contre le virus, les situations normales, particulières et extraordinaires en fonction de l'intensité de la pandémie, le financement des vaccins et des mesures sanitaires et le possible certificat Covid. Mais le Conseil fédéral a renoncé à fixer des exigences chiffrées dans la loi, que les hôpitaux par exemple disposent d'un seuil minimal de lits en soins intensifs. Le président de la Confédération, Alain Berset, s'en explique.
Parce qu'il s'agit d'une révision de la loi sur les épidémies et pas d'une loi sur le Covid-19. On ne sait pas ce qui peut se produire. On doit avoir à la fois de la clarté sur la répartition des compétences et une grande agilité pour réagir, mais en même temps une très grande flexibilité sur ce qui peut nous arriver. Mais rien ne dit que la prochaine fois, le vrai problème, ce sont les lits de soins intensifs, on n'en sait rien. Il faut réussir à la fois à tirer un bénéfice de l'expérience que nous avons vécue avec le Covid-19, mais de l'autre côté, de savoir qu'avec une très haute vraisemblance, la prochaine situation qui se présenterait aura certainement de grosses différences avec le Covid-19. Fixer des seuils pourrait tout à coup, s'ils sont fixés dans la loi, s'avérer être complètement à côté de la plaque et même problématique.
La loi sur les épidémies reste un texte généraliste, ce n'est pas une loi Covid-bis. Elle ne donne pas de statut à la task force scientifique qui a pourtant beaucoup apporté durant la pandémie. Ces organismes sont concernés par d'autres textes en lien avec les situations de crise administrées par la chancellerie fédérale, le vice-chancelier André Simonazzi.
Cette question relève de la compétence de la chancellerie fédérale. Vous savez, le Conseil fédéral a déjà pris un certain nombre de décisions cette année, au mois de mars, concernant l'organisation de crise en général. Il a créé un état-major permanent de crise. Cet état-major permanent de crise sera encore complété avec un module concernant le Conseil scientifique qui sera décidé d'ici la fin de l'année par le Conseil fédéral. Ce sont un peu toutes les pièces du puzzle qui se mettent en place concernant l'organisation de crise. Et cet aspect-là particulier sera réglé par cette décision du Conseil fédéral d'ici la fin de l'année.
Un dossier réalisé par Serge Jubin. Le projet de révision partielle de la loi fédérale sur les épidémies est en consultation jusqu'au 22 mars. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition. Prochain rendez-vous à l'antenne avec l'information, c'est dans le flash de 18h30. Très belle soirée.